France Inter. Le 7-9.
Il est 7h47, Léa Salamé est votre invitée ce matin, est le délégué général du Festival de Cannes.
Et bonjour Thierry Frémaux.
Bonjour.
Merci d'être avec moi en direct de Cannes, on vous a mis la musique, vous avez entendu? Vous entendez?
Ah, oui, j'entends très bien.
C'est le carnaval des animaux de Saint-Saëns. Après une année blanche, le Festival de Cannes revient donc ce soir. Un festival exceptionnellement en juillet, avec masque et sans bisous sur le tapis rouge, Covid oblige. Quel goût aura cette 74e édition? Une saveur particulière, celle des retrouvailles par exemple?
Oui, celle des retrouvailles. Celle des retrouvailles et celle quand même de la prudence, parce que l'épidémie n'est pas vaincue. Donc il faudra qu'on fasse quand même tous attention. Même si la plupart des festivaliers, on le sait, sont vaccinés, on fera quand même très attention. Mais oui, c'est le goût des retrouvailles, c'est le goût à la fois de la vie d'avant, et puis c'est aussi les questions que nous nous posons pour le présent, pour la suite. Heureusement, les artistes sont là, donc ça aura aussi le goût du cinéma. Il y a plein de beaux films. Et c'est presque 2 ans de sélection, comme si le confinement avait permis de d'écrire de très beaux scénarios, parce que y a un peu plus de films, on n'en a pas eu pendant 18 mois, donc on est un peu gourmand.
Effectivement, les tournages ne se sont pas arrêtés les mois derniers, même pendant les derniers confinements. Du coup, il y a je crois plus de 2000 films qui étaient prêts pour les festivals. Est-ce que la sélection des 24 films en compétition a été plus difficile que les autres années? Est-ce que vous avez recalé beaucoup de films à contre-cœur?
Oui, à grand contre-cœur, mais aussi parce que il y a des gens qui postulaient et qu'on avait envie. Par exemple, je vous le dis, Pedro Almodovar sera là ce soir. Pedro a dit, pas avec un film, mais il a dit, c'est le retour de Cannes, le retour du cinéma, et j'ai envie d'être là avec vous pour marquer ça. On a aussi invité Jerry Schatzberg, qui est sans doute le plus vieux cinéaste en activité. Il avait gagné la Palme d'Or en 1973 avec un film avec Pacino. Il avait fait l'affiche, vous vous souvenez, cette affiche avec Faye Dunaway, il y a quelques années. Et pareil, il a dit, j'ai envie d'être avec vous. Et c'est pas nous, le Festival de Cannes, c'est nous, le cinéma, nous tous, vous, la presse, les spectateurs, les professionnels. Ouais. C'est ça aussi que ça va marquer ce 74e festival.
Ouais. Et vous précisez 2 étrangers donc qui seront là ce soir à Cannes, mais c'est une sélection très française. Pas moins de 7 films sont en compétition, 7 films français. Celui de Jacques Audiard, de Léos Carax, de Catherine Corsini, Julia Ducournau, Bruno Dumont, Mia Hansen-Love et François Ozon, je les cite tous. 7 films français, c'est un record. Pourquoi? Parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, ou parce que vous saviez que vous auriez du mal à faire venir les étrangers cette année à cause du Covid?
Non, parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Disons que les, on nous le dira à la fin du festival. Mais alors, si je mets de côté le film de Léos Carax qui ouvre le festival ce soir, lui-même est franco-américain. Le film est franco-américain, tourné à Los Angeles. Ça fait 6 films français en compétition. On est déjà monté à 5 dans une année normale, donc c'est un de plus en cette année exceptionnelle. Ce qui est intéressant, parce que c'est aussi des sujets, oui, c'est que sur les 6 films français de la compétition hors l'ouverture, c'est 3 hommes et 3 femmes. Et sur les 3 femmes, c'est 2 jeunes cinéastes, vous l'avez souligné, Julia Ducournau et Mia Hansen-Love, et puis Catherine Corsini, qui n'est pas venue depuis 20 ans en compétition. Et quand vous parlez de crève-cœur, il y a aussi les chagrins. On lui en a fait des chagrins à Catherine de pas toujours l'inviter, puis là elle revient avec un film formidable. C'est aussi une sélection où nous n'avons rien cédé de ce que nous pensons être ce que doit être une sélection, c'est-à-dire donner des nouvelles du cinéma mondial.
Alors vous parlez des femmes, donc du coup je vais vous répondre. Vous voyez le verre à moitié plein en me parlant des 3 femmes sélectionnées françaises sur les 3 hommes français. Mais si on regarde au final, il n'y a que 4 réalisatrices sur 24 films sélectionnés. C'est pas franchement un tsunami de parité.
Je vais pas vous dire que c'est formidable, mais en même temps, là on ne parle que de la compétition. Si on prend l'ensemble de la sélection officielle, et par exemple Le Certain Regard, qui est la section du jeune cinéma, qui est la section de l'avenir, là la présence des réalisatrices est beaucoup plus forte. Et puis si on veut vraiment
parler... Oui, mais vous savez
bien
que c'est la compétition officielle qui est quand même qui reste le Graal.
Oui, mais Mia Hansen-Love a commencé Au Certain Regard. Sachons regarder l'avenir à travers justement les premiers, les deuxièmes films, la manière manière dont dont certaines réalisatrices commencent à émerger. Vous savez qu'il y a plein de pays, il y a absolument aucune réalisatrice. Donc statistiquement, ça se retrouve. Cannes est à la fin de la chaîne, pas au début, mais en effet, on prête attention à tout ça. C'est la première fois, et sans encore une fois faire que de la statistique ou du symbolique, mais par exemple, c'est la première fois dans l'histoire du festival que le jury est majoritairement féminin, alors que le président est un homme. Donc chaque fois qu'on peut rendre visibles des choses précises, comme nous le faisons également sur d'autres sujets, nous essayons de le faire.
Invité d'honneur de la cérémonie ce soir, Jodie Foster, mondialement connue pour ses rôles dans Taxi Driver ou Le Silence des Agneaux. Elle recevra la Palme d'Or d'honneur. Pourquoi elle ? Qu'est-ce que vous souhaitiez honorer à travers cette récompense ? Son parcours d'artiste ou ses engagements ou les deux ?
Les deux. Les deux, les engagements en question d'ailleurs vont jusqu'au cinéma puisque elle a aussi financé la restauration de l'œuvre de Dorothy Arzner qui était une réalisatrice à Hollywood à l'époque du système des studios et qui en a un petit peu bavé quand même. C'était pas facile d'être une femme à Hollywood à l'époque. Et puis ses engagements de femme, ses engagements de citoyenne et puis évidemment son extraordinaire parcours artistique qui a commencé à Cannes. Et la tradition de la Palme d'Or d'honneur, il y en aura d'ailleurs deux cette année, puisqu'il n'y en a pas eu l'année dernière, et quelque chose qui permet, je ne veux pas dire de rassembler la famille cannoise, mais en tout cas de mettre des cailloux sur ce long chemin qui est celui de l'histoire du festival et de l'histoire du cinéma.
Ouais. Autre moment fort de ce festival, un an et demi après son accident vasculaire, Catherine Deneuve devrait faire son retour public à Cannes. Elle est à l'affiche d'un film d'Emmanuel Berco, de son vivant, qui est hors compétition. C'est une montée des marches que vous attendez particulièrement ?
Oui, beaucoup. On s'est échangé des messages hier avec Catherine Deneuve. On a hâte de la voir. Elle est resplendissante dans le film d'Emmanuel Berco, qui est un grand mélodrame tout à fait fort. Et le film sera montré samedi soir en majesté, dans une belle montée de marche. Benoît Magimel est très extraordinaire aussi dans ce film. Je trouve que le film est aussi un hommage et c'est quelque chose qui traverse un peu la sélection. Oui. Est-ce que ça a une résonance, mais en tout cas, c'est un hommage aux hôpitaux, c'est un hommage aux soignants, c'est un hommage, le film de Catherine Corsini le fait aussi, le film de François Ozon. Il y a quelque chose...
Une résonance avec l'actualité.
De résonance avec l'actualité, absolument.
Et puis il y a le sujet qui fâche, comme à chaque festival depuis quelques années. Votre règle pour la sélection officielle à Cannes, c'est que les films doivent obligatoirement sortir en salle. Les films proposés sur les plateformes peuvent être présentés, mais hors compétition. Le Covid, qui a vu exploser encore plus les plateformes, ne vous a-t-il pas fait douter sur cette règle ? Certaines personnes, on l'a encore lu dans les journaux ce dimanche avec des tribunes, certaines personnes du milieu du cinéma vous reprochent de vous entêter sur cette question, voire de commettre une erreur historique en refusant de sélectionner ce qui est devenu le cinéma d'aujourd'hui et du coup, de marginaliser le Festival de Cannes. Que répondez-vous à ça ?
Oh, on a plein de choses à répondre. D'abord, la chronique dont vous parlez était complètement idiote et pleine truffée d'erreurs, écrite par quelqu'un qui, dans le métier, est d'être président d'une entreprise de placement de produits, donc il a réussi à placer son article, mais c'est un article qu'il aurait pu écrire il y a 5 ans, la situation n'est pas la même. Alors, quand vous me disiez, il y a beaucoup de films, justement, il y a beaucoup de films, donc avait-on besoin des films des plateformes, tout en vous disant que le film de Léos Carax qui ouvre le festival ce soir, qui est en compétition, est un film coproduit avec Amazon, avec une plateforme. Et il sortira aux États-Unis, puis il sortira assez rapidement sur la plateforme. Vous savez que c'est un problème global de chronologie des médias, que nous avons été le premier festival à inviter Netflix, dont on pensait à l'époque qu'ils accepteraient que leur film sorte en salle française. Hein, c'est ça la règle.
Donc vous, c'est pour vous, c'est une fausse polémique, c'est ça, un faux procès qu'on vous fait ?
Oui, non, mais c'est un dialogue fructueux et parfois délicat, mais qui, je pense, donnera des choses. En tout cas, quand la situation aura vraiment évolué dans les années qui viennent, on pourra considérer que le dialogue entre Netflix et le Festival de Cannes aura été fructueux pour faire évoluer les choses.
Dans un autre style, Mathieu Kassovitz a déclaré il y a quelques mois que les salles de cinéma sont vouées à disparaître, quoi qu'il se passe, que se battre pour les salles, c'est comme se battre pour qu'une espèce animale ne disparaisse pas, et que cette épidémie de Covid, au fond, n'a été qu'un accélérateur. Je suppose que vous n'êtes pas d'accord avec lui.
je suis d'accord et pas d'accord. Il a dit ça à un moment. Est-ce qu'il dirait ça aujourd'hui? C'est comme si à vous j'expliquais parce que vous avez certaines de vos collègues des radios qui sont pas en bonne forme que la radio est en train de disparaître. Tout ça c'est des généralités. Le cinéma avant l'épidémie en 2019 a fait sa meilleure année depuis plusieurs décennies. Après, il est sûr que le cinéma qui s'est affronté à la télévision dans les années 50, à Internet, à la vidéo dans les années 80, à Internet dans les années 2000, fait face maintenant à une concurrence très brillante et très formidable, parce qu'il faut redire que les plateformes font un travail formidable de création, et il n'était pas là pour se défendre, il ne pouvait pas se défendre. Les salles n'ont jamais été autant fermées qu'elles l'ont été.
Donc il fallait encore plus. Oui, c'est vrai. Il fallait encore plus montrer cette année que vous.
Mais
étiez...
vous avez vu qu'en France, par exemple, et c'est pas un hasard parce que la France a un système de cinéma tout à fait fort. Le retour en salle a été triomphal.
Merci.
Et pourquoi? Parce que les Français sont capables d'aller au cinéma même quand il n'y a pas de cinéma américain, ce qui n'est pas le cas de tous les autres pays.
Merci Thierry Frémaux. L'exception française et le cinéma qui bouge encore, c'est le 74e Festival de Cannes. Ça commence ce soir. Merci et beau festival à vous.
Merci beaucoup.
France Inter.